Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Vincent Parisot, Christelle Robière.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est RTL midi, on est ensemble jusqu'à 14h avec vous au 3210, avec vos réactions, avec vos témoignages. Bonjour Christelle.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et on vous attend évidemment dès maintenant au 3210 pour parler syndicat, parce que c'est le début d'une semaine cruciale pour la loi travail et pour le mouvement de contestation. Mais après plus de 2 mois et demi de bras de fer, se pose la question du dialogue social en France. Quel syndicalisme et pourquoi faire? On en parle évidemment sur RTL avant le débat de ce soir à 19h entre Philippe Martinez et Laurent Berger, entre la CGT et la CFDT, autrement dit entre un syndicalisme de combat et un syndicalisme réformiste. L'affrontement ou le dialogue, quel rôle doivent tenir les syndicats dans la société, comment être efficace pour défendre les salariés. On en parle notamment si vous êtes syndicaliste, mais pas seulement, au 3210. Et on sera à 13h avec Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail.
La France a les pieds dans l'eau et ce n'est pas fini. D'ici à mercredi, il sera tombé l'équivalent d'un à deux mois de pluie. 22 départements sont en vigilance orange. Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Le joli mois de mai est bien pourri.
Oui, avec l'anticyclone des Açores qui est bien trop loin de chez nous pour nous assurer un temps sec. Donc beaucoup de pluie, toujours ces 22 départements, beaucoup de pluie entre les frontières du Nord, l'Île-de-France et le Centre.
Nous irons en Vendée où ça fait 48 heures qu'on nettoie. On peut évoquer aussi la grêle qui a haché tout cru une partie du millésime 2016 dans le Chablis et le Beaujolais. Dans RTL Midi, un document. La femme assassinée hier dans le Rhône se sentait menacée par son ex. L'homme qui avait ensuite enlevé leurs 3 enfants est toujours en garde à vue. Carton rouge pour Serge Aurier. Le défenseur du PSG est en garde à vue après s'en être pris à un policier tôt ce matin à la sortie d'une boîte de nuit à Paris. Les chiffres du travail détaché en France. 286 000 personnes déclarées en 2015, plus 25% sur un an, mais c'est sans compter la fraude. En première ligne, les transports et le bâtiment. Nous serons avec Patrick Liebus, le président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, à 12h50. Et on attend vos témoignages dès maintenant, 32-10. L'assaut donné à Fallujah, les forces irakiennes appuyées par la coalition tentent de reprendre la ville aux mains des islamistes de Daesh. Consommer autrement, 94% des Français veulent revenir à des produits simples et accessibles, fabriqué localement et moins polluant. Bref, un made in France responsable. Parlons-en au 32-10. France-Cameroun ce soir à Nantes, étape test pour les Bleus avec un Didier Deschamps contraint de jouer les Monsieur Bricolage après les forfaits de ces derniers jours.
Et la question du jour sur RTL.fr, en regardant le ciel, hein, évidemment. On vous demande si vous avez souvenir d'un pire mois de mai. Alors, vous êtes 56% à nous dire non. Non, je me souviens pas d'un mois de mai aussi épouvantable. Mais 35% d'entre vous ont visiblement de la mémoire et nous répondent oui. Vous pouvez nous le dire, évidemment, si vous le souhaitez, au 32-10.
Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Ce mois de mai restera certainement dans les annales. 300 000 impacts de foudre rien que samedi. 5 enfants sont toujours hospitalisés à Paris. Des vignerons qui ne proposeront pas de millésime 2016 ou si peu dans le Beaujolais, le Chablis ou encore à Cognac. En Vendée, 48 heures après les trompes d'eau et de grêle, on en est toujours à nettoyer. Patrice Gabart, vous êtes aux Herbiers pour RTL entre Cholet et La Roche-sur-Yon.
Oui, c'est toujours le grand nettoyage ce midi dans le village de la Pilaudière, aux Herbiers, où les éléments se sont littéralement déchaînés samedi soir. Jean-Louis, entouré de ses amis, botte aux pieds pour déblayer la boue.
Tout d'un coup, ça commence à mouiller. Bon, on a dit, ça va y aller. Puis après, il y a eu la grêle. Et toute la terre est descendue du champ. Et puis après, elle est descendue dans le village. C'est opération tracteur, là, parce que je ne peux plus rien faire. Là. Avec une brouette, je ne peux pas.
On n'avait jamais vu ça depuis... moi, je suis là depuis 60 ans. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. C'est incroyable, quoi.
La nature. Elle est bien faite, mais là, elle a mal travaillé.
Dans le bas du petit village, les dégâts sont plus importants et des familles ont dû être relogées par la ville qui organisait ce matin une réunion d'information et de soutien, une sorte de cellule de crise. Véronique Bess, députée maire de la ville.
Les gens sont un peu groggy aujourd'hui. Ils ont été un peu dans le feu de l'action. Ils ont déblayé, ils ont rangé, ils ont nettoyé avec l'aide des pompiers qui ont été formidables. Donc ils ont fait ça tout le week-end et là, il y a le contre-coup aujourd'hui. Des gens qui pleurent, qui viennent nous voir en disant mais qu'est-ce qu'on va devenir. Ils ont jeté des affaires personnelles. C'est un côté aussi assez trop. C'est un peu aujourd'hui le contre-coup que l'on essaie de gérer, évidemment.
Et après ce cauchemar d'eau, de grêle et de boue, la mairie des Herbiers demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Un reportage Patrice Gabart aux Herbiers pour RTL. On a déblayé hier, aujourd'hui c'est le contre-coup, hein, disait cette femme. Bah, vous pouvez l'exprimer effectivement, votre désarroi, si vous le souhaitez, au 32-10. En tout cas, le déluge continue. 22 départements sont en vigilance orange aux fortes pluies. Et puis, il y a un constat très simple, Patricia Charbonnier a dressé, c'est que l'entreprise anticyclone n'est absolument pas là où il devrait être. Il est aux abonnés absents.
Oui, c'est vrai que depuis le début du mois de mai, on vous parle surtout d'instabilité, d'orage, de changement de temps, tout simplement parce qu'on est coincé entre deux centres d'action météo. Tout d'abord, l'anticyclone des Açores qui est beaucoup trop au nord sur le proche Atlantique. Il est plutôt calé sur les îles britanniques. Et puis de l'autre côté, on a une dépression assez creuse sur l'Europe centrale. Et nous, on est dans un couloir, on est coincé, on est en plein dans un contraste, un gros contraste de masse d'air. On l'a vu en fin de semaine dernière, on a l'anticyclone qui a propulsé de l'air chaud sur la France. On a eu un semblant d'amélioration, retour d'un temps sec ensoleillé, mais très très vite ça s'est dégradé. On a eu d'abord de l'instabilité, ensuite des averses. Ensuite c'est la dépression sur l'Allemagne qui a repris le dessus. C'est devenu très orageux ce week-end avec un gros conflit de masse d'air, d'où la violence des orages, d'où la grêle, d'où cette activité électrique importante. Et en ce début de semaine là, c'est carrément la dépression sur l'Allemagne qui pilote la situation météo avec ce qu'on appelle en météo des retours d'est, beaucoup de pluie jusqu'à mercredi matin, c'est avec ça. Des cumuls importants. Il faut rappeler quand même que le printemps est en général une saison avec une variabilité importante. Exemple, en 2013, on avait eu un mois de mai très très pluvieux et très frais, et en 2011, un mois de mai très sec et très doux.
Mais là, quand même, les deux prochains jours vont être les plus arrosés de tout le mois de mai.
Bah oui, le mois de mai touche à sa fin, sous la pluie, sous de très très fortes pluies. À surveiller la réaction des cours d'eau à partir de cet après-midi. On va battre des records de pluviométrie, ça c'est sûr. C'est déjà le cas pour certaines villes avec les relevés de ce week-end, sur la Roche-sur-Yon par exemple, Auxerre, Blois et Beauvais. Et Paris devrait également battre son record de 1992. Il est déjà tombé 117 mm de précipitation sur les trois premières semaines de mai. On attend encore sur cet épisode pluvieux 50 à 80 mm. Donc l'ancien record était de 132 mm de précipitation.
Merci Patricia Charbonnier. On a parfois la mémoire qui flanche en matière de météo. On vous en demande si vous avez le souvenir d'un pire mois de mai. Vous nous répondez non à 56% quand même. Mais si c'est le cas, vous pouvez nous le dire au 32-10. Évidemment, on attend vos témoignages aussi si vous êtes viticulteur ou si vous avez subi les conséquences de ce temps épouvantable.
L'homme soupçonné d'avoir tué sa femme à Pontcharrat-sur-Turdine dans le Rhône avant d'enlever ses trois enfants hier est toujours en garde à vue. Suspecté d'homicide volontaire avec préméditation, le corps de sa femme a été retrouvé quelques heures avant le déclenchement de l'alerte enlèvement. Peggy Liaudenau a recueilli le témoignage de la meilleure amie de la victime. Celle qui partageait sa vie depuis 15 ans se sentait menacée. Écoutez Cathy.
Elle devait récupérer ses enfants pour la fête des mères. Bon, elle était quand même assez inquiète, elle appréhendait beaucoup. Elle ne voulait pas rentrer dans l'appartement. Elle m'a dit qu'elle avait déposé une main courante quand elle a décidé de fuir, il y a seulement une dizaine de jours, même pas. Parce que justement, c'était aussi un moyen pour elle de se protéger. Et elle se sentait en danger. Elle a organisé son départ depuis 3 mois. Du jour au lendemain, elle a fui. Donc, elle savait que son conjoint n'allait pas forcément accepter de gaieté de cœur, effectivement, ce départ. Les violences physiques, moi, je n'en ai pas vu. Maintenant, des pressions psychologiques, oui, le fait de contrôler du matin au soir chaque instant de sa vie. C'est un homme qui pouvait être dans la domination et dans le contrôle. Il pouvait être psychologiquement très dur. Pour elle, c'était une nouvelle vie, elle reprenait sa liberté. Toute son énergie était quand même centrée sur ses enfants.
Voilà, donc la meilleure amie de la victime de cette affaire de Pontcharrat-sur-Turdine dans le Rhône. Elle était avec Peggy Liaudenau. En tout cas, cette fois, il n'a pas filmé ses exploits sur Periscope, en live sur Internet. Non, non, le défenseur du PSG, Serge Aurier, a fait ça tout seul. Il est en garde à vue à Paris parce qu'à la sortie d'une boîte de nuit, il a insulté et frappé un policier, Guillaume Chiez.
Oui, c'était un peu avant 6h ce matin. Un Porsche Cayenne stationné rue de Ponthieu dans le 8e arrondissement de Paris. Serge Aurier est à bord, côté passager, un homme à l'avant, deux femmes à l'arrière. Les policiers de la BAC Nuit contrôlent les occupants du véhicule. Aucun problème avec les amis du joueur. En revanche, Aurier, légèrement éméché, refuse de se soumettre aux ordres de la BAC. Ne me parlez pas, ne me touchez pas, vous ne savez pas qui je suis, lance le joueur. Le ton monte, le défenseur du PSG finit par mettre un coup de coude dans le thorax d'un des policiers. Aurier continue, mon avocat va s'occuper de vous, vous allez le regretter toute votre vie. Le défenseur est menotté, emmené au poste de police, rébellion, menace et violence. Serge Aurier est toujours en garde à vue à l'heure qu'il est.
Guillaume Chiez, 5 nouveaux témoignages contre Denis Baupin, 5 femmes qui disent avoir été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle de la part du député écologiste. C'est ce que révèle Mediapart. Ce matin, une femme a notamment été plaquée contre le mur avec les mains sur ses seins. Certains faits remonteraient à 2014 et ne seraient donc pas prescrits.
Ils sont polonais, portugais et ils sont chaque année de plus en plus nombreux à venir travailler en France. On les appelle les travailleurs détachés. Plus 25% l'an dernier. Et là, on ne parle que de ceux qui sont déclarés, évidemment. A tout de suite sur RTL.
RTL Midi. Christelle Robière et Vincent Parisot jusqu'à 14h.
C'est de la main-d'œuvre à la fois flexible et pas chère, en tout cas moins chère. L'an dernier, 286 000 travailleurs détachés ont été déclarés à l'administration française. C'est une progression très spectaculaire, plus 25% en un an seulement. La Commission nationale de lutte contre le travail illégal a donc remis ce matin son rapport à Manuel Valls, à Matignon, où vous vous trouvez, Christophe Ponzio, pour RTL. J'imagine qu'on a des explications. Comment on en est arrivé à une telle inflation ?
Alors c'est d'abord la peur du gendarme qui a poussé plus de 80 000 entreprises à déclarer ces travailleurs temporaires dont les cotisations sociales sont payées dans leur pays d'origine. Grâce aux nouvelles lois, l'amende administrative en cas de fraude peut désormais atteindre 500 000 euros. Ensuite, les contrôles ont été sérieusement renforcés depuis l'été dernier. Ils sont passés de 600 interventions par mois à 1500 aujourd'hui. L'État fait donc pression, mais le Premier ministre Manuel Valls l'a reconnu ce matin. Les fraudes sont de plus en plus nombreuses, comme les classiques non-déclarations, certes, mais aussi maintenant des montages juridiques complexes avec des sociétés écrans. 220 000 travailleurs détachés seraient ainsi dans l'illégalité.
Ouais, donc l'augmentation des contrôles n'explique pas tout, il y aurait peut-être aussi plus de fraude. Dites-nous, Christophe Ponzio, quels sont les secteurs les plus touchés ?
Alors le bâtiment et les travaux publics restent le premier secteur à faire appel à ces travailleurs détachés avec un quart des déclarations au coude à coude avec l'intérim. L'industrie est aussi très concernée. Plus de 8 salariés détachés sur 10 sont des ouvriers, précise le rapport, venant d'abord du Portugal à 25%, puis de l'Espagne et de la Roumanie.
Merci Christophe Ponzio. Évidemment, on en parle avec vous au 3210, que vous soyez salarié, chef d'entreprise dans le bâtiment ou par exemple routier dans les transports. Les transports aussi sont très touchés par ce phénomène des travailleurs détachés. 3210, on vous attend.
Pierre Gattaz jette de l'huile sur le feu. Le président du MEDEF compare la CGT du livre à une dictature stalinienne. La situation est toujours bloquée face à la loi travail. Les salariés des terminaux pétroliers doivent se prononcer au Havre dans les minutes qui viennent sur la reconduction de la grève. Une centaine de personnes bloquent par ailleurs la plus grosse usine de traitement de déchets d'Île-de-France à Ivry-sur-Seine. Ce soir à 19h, le grand débat entre deux hommes, deux conceptions du syndicalisme. Philippe Martinez de la CGT, Laurent Berger de la CFDT. Débat animé sur RTL par Marc-Olivier Fogiel et Alain Duhamel, dans lequel vous pourrez intervenir sur Twitter via le hashtag Grand Débat. François Hollande recule, pas sur la loi travail, mais sur le budget de la recherche. Alors que 5 prix Nobel français ont exprimé leur indignation, le président renonce finalement aux annulations de crédits de 134 millions d'euros. La croissance revue légèrement à la hausse au premier trimestre, plus 0,6% au lieu de 0,5% d'après l'INSEE.
L'assaut a donc été donné à Fallujah, cette ville bastion de l'État islamique en Irak, qui est seulement à 50 km de Bagdad. Les forces du gouvernement, avec l'appui aérien de la coalition internationale, sont en train de reprendre cette ville de Fallujah, Isabelle Date, qui était tombée aux mains de Daesh il y a 2 ans.
Oui, c'est la première grande ville d'Irak à être tombée aux mains des djihadistes en janvier 2014. Sa reconquête est indispensable pour contrôler l'ouest du pays, de Bagdad à la frontière jordanienne. L'offensive a débuté avant l'aube, elle pourrait durer des semaines et être une des plus difficiles pour les forces irakiennes qui s'attendent à une forte résistance. Elles redoutent les mines posées par Daesh en 2 ans et demi de présence. Il resterait dans Fallujah des centaines de membres du groupe appuyés par une partie des tribus locales et au milieu de cela, une population totalement prise au piège, sans aide ni protection. Environ 50 000 civils appelés à fuir ou à mettre des drapeaux blancs sur les toits pour éviter d'être pris pour cible. Mesure bien dérisoire, Daesh les empêchant de quitter la ville pour les utiliser comme boucliers humains. Rares sont ceux qui, avant l'offensive, ont pu rejoindre les points d'extraction désignés par les autorités irakiennes. Mais ceux qui l'ont fait ont pu témoigner de leur terrible quotidien, des personnes épuisées, effrayé et affamé.
Merci Isabelle Date, le début de la bataille de Fallujah.
Football, 2 répétitions générales avant le début de l'Euro. France-Cameroun ce soir à Nantes, à 11 jours du match d'ouverture contre la Roumanie. Un test essentiel pour Didier Deschamps. Il a eu 2 ans pour préparer cet Euro, mais entre forfait et polémique, il n'a plus que 2 matchs pour trouver le bon réglage, Jérôme Milagou.
Oui, Deschamps, vous savez, en ce moment, c'est monsieur bricolage et on lui conseillerait presque d'appeler Michel Hidalgo pour qu'il lui raconte comment un après-midi d'été 1984, ici même à Nantes, il avait dû bricoler comme jamais une équipe de France qui, au final, terrassera la Belgique 5-0 au terme d'une partie sans doute la plus aboutie de l'histoire des Bleus, comme quoi en bricolant. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, la chance légendaire qui a toujours escorté Didier Deschamps semble s'être muée en une véritable scoumoune.
Depuis 2 mois, c'est bien chargé. bien cherché, mais bon, c'est comme ça, ça peut arriver. Donc je ne vais pas commencer à trouver des excuses. Je fais en sorte de gérer chaque situation du mieux possible.
Obligé en défense, par exemple, de ressortir des cartons une association vieille de 4 ans, Rami Koscielny, leur dernier match ensemble, le France-Espagne, quart de finale de l'Euro 2012. Et puis l'attaque, le gros point fort des Bleus ces derniers temps. Griezmann est au repos après sa finale perdue en Ligue des Champions et son pénalty raté. Anthony Martial au repos. Bref, au final, Deschamps ne pourra même pas tester ce soir son équipe type pour l'ouverture de l'Euro.
Jérôme Milagou à Nantes pour RTL. Rendez-vous dans le club France RTL de 20h à minuit avec notamment Bichène Télissarazou. Quelle chance donnez-vous à ces Bleus? Parlons-en au 32-10. Vous pourrez aussi commenter ce sondage assez surprenant réalisé par Monster.fr auprès des salariés français. À la question à quel poste vous vous identifiez le plus dans une équipe de foot, 46% se voient en défenseur, justement, 20% en attaquant. On peut considérer soit qu'ils manquent de confiance en eux, soit qu'ils ont le sens du collectif. À méditer.